Je sais pas si vous savez, mais on sert un roi extraordinairement puissant, on sert un Dieu extraordinaire. Je vais donner une grande nouvelle à l'église. Personne ne peut te forcer à louer le roi, c'est un choix. Un choix qui vient d'ici. Un choix qui est un choix de cœur. La joie que Dieu donne, personne ne peut te l'enlever. Mais toi, tu peux la perdre. Personne ne peut te l'enlever, mais toi, tu peux la perdre. Mais si tu la gardes, cette joie-là te propulse toujours plus loin, toujours plus haut avec Dieu. Et moi, j'ai beaucoup de mal lorsqu'une église a du mal à louer le roi. Alors, je suis pasteur, je suis prophète, donc mon rôle de prophète est de mettre mon doigt là où tu n'as pas envie que je le mette. Et c'est la vie. Ça s'appelle le cœur du Père. Et donc, je suis là ce matin et dans mon rôle de ministère, je dois vous enseigner, vous encourager, mais peut-être que parfois, je vais marcher sur vos pieds. Et je le fais exprès. Souvent, je ne fais pas fait exprès. Là, je le fais exprès. Pour vous faire réagir et réfléchir et dire, Saint-Esprit, prends mon cœur comme jamais. Prends ma vie comme jamais. Seigneur, aide-moi à être fou amoureux de toi. Quand on fait cela, la vie change. L'atmosphère change. Les relations changent. Quand Dieu est dans une vie, tout change. Et merci, mon frère. Tu peux t'arrêter, mon ami. Merci beaucoup. Très gentil. Et merci de prendre du temps pour nous. Merci à l'Église. Donc franchement, j'aime provoquer l'Église de Christ. Partout où je vais dans le monde, même en Suisse. Je me rappelle d'un jour, un pasteur ami suisse me dit, tu sais Bruno, en Suisse, tu vas prêcher, mais à midi, les gens se lèvent et partent. Ne sois pas gêné par ça, ne sois pas vexé, c'est leur culture. Midi, c'est midi. Peu importe ce qui se passe dans l'Église, ils s'en vont. Là, je fais, waouh, ok. Il n'y a même pas de signal, tu sais rien, ils se lèvent, ils partent, c'est comme ça, dans leur culture, dans quelques églises. Et là, je prêche mes tripes et tout ça, on prêche, d'un coup, à la fin du message, Dieu descend, et là, on se met à louer Jésus. Imagine les Suisses qui chantent, qui dansent et qui chantent sur des rythmes africains. Pas mal, les gens. Et là, je regarde ma montre, et il est 14h35, l'église est pleine. Pleine. Ils sont en pleurs, ils dansent comme ça, le pasteur me dit, j'ai jamais vécu ça. Je dis, mais ça, c'est le béaba de la vie chrétienne. Quand Jésus prend le contrôle. Regarde ton voisin, dis, c'est bon de te voir, tu es très très beau. Ou très très belle. Si c'est la femme d'un autre, faites gaffe. On ne sait jamais. C'est cool de te voir, Alex. Bienvenue, mon ami. Donc ce matin, j'ai le privilège de partager avec vous un message qui pourrait durer 4 ou 5 heures, que je vais essayer de faire en 25 minutes par la foi. Romains 10, 17 nous dit « Or, la foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. » La foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Et je vous encourage ce matin, si possible, à prendre des notes, à écrire. Si vous n'avez pas de cahier, de stylo, écrivez sur le bras du voisin. Ce sera une chance de plus pour le revoir dans la semaine. La foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Quand tu entends la voix de Dieu, la foi naît dans ton cœur. Quand tu entends les messages qui viennent de Dieu, la foi naît dans ton cœur. Lorsque tu entends la parole de Dieu, la foi reste puissante dans ton cœur. Et lorsque tu entends Dieu, tu vois ce que Dieu dit. Et quand tu dis ce que tu vois, tu verras ce que tu dis. Bon, je vais reprendre. Vois ce que Dieu dit et que tu dis ce que tu vois, tu verras ce que tu dis. Et ce matin, je vais essayer de vous montrer en quelques minutes le principe de la foi que beaucoup de chrétiens proclament. J'ai la foi. D'ailleurs, comme disait mon ami Steph, pasteur, il disait un jour, tu sais, les gens disent, oh, je vis par la foi. Mais quand quelqu'un dit, je vis par la foi, toi, tu comprends, le gars est ruiné. J'ai entendu ça? Ah, oh, je vis par la foi. Ça veut dire que le gars est pauvre, il n'a plus rien. Mais Abraham vivait par la foi. Il y avait beaucoup de chameaux. Il y avait beaucoup de taureaux. Vivre par la foi ne signifie pas être pauvre. Ça signifie vivre selon les provisions de Dieu. D'ailleurs, la foi ne crée aucune dette. La foi ne crée aucune dette. Oh là, c'est tout d'un coup, c'est... Parce que si j'ai la foi et que je fais un choix par la foi et que je crée une dette, c'est qu'en fait, je n'ai pas entendu Dieu me parler. Parce que si Dieu me parle et que j'agis selon ce que Dieu me dit, alors il y aura les provisions. Oh là là, Seigneur Jésus, aide-moi ce matin. Steph, Dieu amène de temps en temps. D'accord, Dieu amène n'importe quand, n'importe comment, comme ça, il y a des amens qui viennent quand même. Parce que leur amen est très profond. Mais trop profond. Ça choque peut-être, mais les gens, l'Église a généré trop de dettes en disant on vit par la foi, on fait par la foi. La foi génère les provisions. La foi, c'est entendre Dieu parler, et quand Dieu parle, j'ai la foi. Mais si Dieu me parle, je sais comment agir. Je sais quoi faire, je sais quoi dire au bon moment. Donc ce matin, je vous propose de revisiter votre foi. Parce que je crois trop souvent qu'en France, on parle de la foi et les gens nous regardent en disant « tu as une crise de foi ». Si on a la foi, il y a un impact, il y a une autorité, il y a une puissance, il y a une joie, il y a un zèle, il y a une passion, une compassion. Esaïe 61, versets 1 à 4, et Jésus le reprend dans Luc 4, 18, 19, il dit « l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour faire pitié. Il m'a oint pour annoncer à tout le monde une mauvaise nouvelle, pour les juger, les détruire et les briser. Il m'a oint pour casser le moral de la France. » Non ! L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quand une église annonce des mauvaises nouvelles, c'est qu'elle n'est pas oint du Saint-Esprit. Quand quelqu'un n'annonce que des mauvaises nouvelles, c'est que le Saint-Esprit ne pilote pas sa vie, ne contrôle pas son cœur. Mais quand une église est remplie du Saint-Esprit et de foi, et qu'elle déclare ce que Dieu dit, l'atmosphère spirituelle change. Ton foyer change, ton couple change, ta famille change, ton groupe de louange change, ton église change, tout change. Quand un homme ou une femme d'autorité entend Dieu parler et proclame ce que Dieu dit, je vois ce que Dieu dit, je dis ce que je vois et je verrai ce que je dis. Alors j'explique. Quand tu dis ce que tu vois, imagine que ce matin je te dise voiture, tu penses à quoi? Tu penses à voiture. Tu ne penses pas à un chameau. J'aurais peur sinon. Donc quand Dieu te dit quelque chose, tu as en général ce qu'on appelle une vision, une image. Quelque chose, Dieu te parle, ça génère une image, une vision. On appelle ça la révélation. T'as une révélation, on est d'accord? Révélation, bam. Et tout d'un coup, tu te mets à proclamer ce que tu vois. Donc regarde, tu te mets à dire et à décrire et à comprendre. Je vois une voiture, des roues, un guidon, un moteur, peu importe. Et tu commences à déclarer et tu dis ce que tu vois. Et en faisant cela, tu es en train de recevoir ce qu'on appelle l'illumination, la compréhension spirituelle de ta révélation. Et une fois que tu as compris cela dans l'esprit, Tu peux devenir ce qu'on appelle l'incarnation. Tu vois ce que tu dis. Il y a un processus entre la révélation et l'incarnation, et très peu de chrétiens vivent l'illumination, c'est-à-dire la compréhension des révélations qu'ils ont reçues de la part de Dieu. Et c'est pour cela que beaucoup de gens agissent n'importe comment. Ils disent « j'ai une révélation » et bam, ils agissent, mais ils n'ont pas compris ce que Dieu a dit par l'esprit, et ils se manifestent avec de la folie. C'est de la folie parce que rien ne fonctionne, on crée une dette, on a un problème, on dit plein de choses, mais c'est vide, il n'y a pas de substance. Il faut apprendre, Église, pour que ta foi soit puissante, il faut apprendre absolument à ce que tu entends de Dieu, qui fait naître en toi la foi, soit comprise ici avec ton intelligence spirituelle. Il faut commencer à dire ce que tu vois. Dire ce que tu vois. Dans toute la parole de Dieu, vous ne verrez jamais la foi silencieuse. Jamais. Vous ne verrez jamais. Pensez à Ézéchiel. Ézéchiel, le principe suivant est imagé dans Ézéchiel. Ézéchiel 34, Dieu l'amène visiter un musée d'ossements desséchés. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Seigneur, c'est facile à voir, il n'y a que ça. Ossements, et en plus, ils sont desséchés. Et Dieu lui dit, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Et lui est très intelligent, il dit, Seigneur, toi seul sais, parce qu'il veut entendre Dieu. Toi seul sais, entre termes, Seigneur, dis-moi toi ce que tu veux dire. Et quand tu commences à lui dire ce qu'il faut dire, tant qu'il ne proclame pas, rien ne se passe. Il entend que Dieu lui dit, prophétise et proclame, et la vie va reprendre. Mais tant qu'il ne proclame pas, les choses ne se manifestent pas. Quand tu dis ce que tu vois, tu verras ce que tu dis. Mais il faut voir ce que lui a dit. La foi. La foi, ce n'est pas seulement des belles professions, tranquilles, super, par la foi, je suis guéri. La foi, c'est entendre que tu es guéri. C'est agir par rapport à ça. Qu'est-ce que la foi ce matin? Avez-vous la foi? Regarde ton voisin et dis, est-ce que tu as la foi? Là, on ne répond plus vraiment parce qu'on se dit, oula, si j'ai la foi, je n'ai pas de problème. Si j'ai la foi, j'ai de l'autorité. Si j'ai la foi, j'ai de la joie. Si tu as la foi, tu ne peux pas être malheureux. Église, même Paul en prison dit, réjouis-toi encore. Alléluia, il est en prison. Nous, on rate un match de foot, on pleure. L'Église est la seule entité, le seul organisme spirituel capable de changer la France. La seule. Vous êtes les seuls, nous sommes les seuls, ça paraît prétentieux, mais c'est la vérité, nous sommes les seuls capables de réellement changer la France de l'intérieur. Ça ne se fera pas sans la foi qui vient de Dieu. Et je suis là, je vous encourage, et si on retrouvait la foi selon Dieu. La foi vient de ce que j'entends. Je vais lire avec vous ce matin Matthieu 6, verset 33, mais je vais lire la paraphrase qu'on appelle le message. Vous êtes prêts? Soyez attentifs si vous voulez bien. Écoutez bien, c'est magnifique. C'est Matthieu 6, 33, pour la version Louis II, c'est « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. » Ok? Et c'est Jésus qui parle ici. Il dit « Ce que j'essaie de faire ici, c'est de vous amener à vous détendre. » En une parenthèse, quand tu marches par la foi, tu n'es pas stressé. Oh. Ou bien Dieu est en contrôle, ou bien tu es en contrôle, mais on ne peut pas avoir le contrôle des deux. Si Dieu contrôle, pas le stress. Si Dieu a pris ta main, pas de stress. Si Dieu est dans l'affaire, pas de stress. Si Dieu t'a parlé, pas de stress. Il y aura peut-être des attaques, oui, c'est sûr. Il y aura des oppositions, oh oui, c'est sûr. Mais la paix appartient à celui qui marche par la foi. Il dit ici, ne pas être si préoccupé par le fait de recevoir tout le temps afin de pouvoir réagir à ce que Dieu fait et à ses dons. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et sa façon d'agir se tracassent pour ces choses-là. Mais vous, Église Clé, à Montpellier, vous connaissez à la fois Dieu et sa façon d'agir. Et il dit, laissez votre vie s'imprégner de sa réalité, de ses initiatives, de sa provision. Là, c'est le verset qui dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ici, il dit, laisse ta vie être imprégnée par la provision, la réalité, la révélation de Dieu. Plonge ta vie dans son royaume. Plonge ta vie dans son monde. Qu'est-ce que le royaume de Dieu en grec? Le mot royaume, c'est basilia. Ça veut dire la sphère dans laquelle Dieu règne. Plonge ta vie dans la sphère dans laquelle Dieu règne. Église, Dieu ce matin veut te dire qu'il est avec toi, qu'il est pour toi, mais il faut que tu plonges ta vie une fois pour toutes dans sa réalité. Et il dit ici, ne vous inquiétez pas de manquer de quelque chose. Vous verrez que tous vos besoins humains seront satisfaits au quotidien. Ouh! Merci pour le amen. Amen, c'est cool. Prêtez toute votre attention à ce que Dieu fait en ce moment. Oui, plongez-vous dans sa réalité. Ne vous prenez pas la tête à propos de ce qui peut arriver ou ne pas arriver demain. Dieu va vous aider à gérer n'importe quelle difficulté qui se présente quand le moment viendra. Nous, nous voulons que Dieu nous aide à gérer l'opportunité qui n'est pas encore arrivée. On pense que la foi, on peut la stocker pour le futur. La foi n'existe qu'au présent. La foi du passé est dépassée. La foi du futur n'existe pas encore. Tu ne peux pas avoir la foi pour le futur. C'est comme si tu dis à ta femme, je t'aime demain. Elle va te dire, ah bon? Au pire, je t'ai aimé hier. Et aujourd'hui, je sais pas, je réfléchis. Ça ne marche pas comme ça. L'amour, c'est le présent. L'amour, c'est je t'aime maintenant. L'amour, c'est que je profite du moment présent maintenant. La foi est exactement la même chose. Vous êtes dans un instant, la foi ne peut vivre, ne peut être vécue qu'au présent. Alors, une parenthèse extrêmement importante. Je vais peut-être vous choquer ce matin. Restez assis, attachez vos ceintures, mettez un casque. À chaque fois que tu utilises ta foi pour uniquement tes propres besoins, sans avoir entendu la voix de Dieu, ce n'est pas la foi, c'est de la magie blanche. J'ai mis un casque. Le nombre de chrétiens que j'entends prier et qui se servent de la pseudo-foi pour dire « Seigneur, je veux une voiture, je veux une moto, je veux une montre, je veux un ordinateur, je veux des fringues, Seigneur, alléluia par la foi, alléluia !» En fait, c'est un désir caché qui tente à vouloir manipuler la foi et le vocabulaire de Dieu pour obtenir des choses que Dieu n'a jamais voulu pour toi. Écoutez bien ça. La foi vient de ce que j'entends. Entre termes, la foi, c'est un outil que Dieu nous donne, un don que Dieu nous donne pour obtenir ce qu'il a déjà fait pour toi et non pas ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné. Nous, on dit, j'ai la foi pour tout, et après le royaume. La foi, écoutez bien ça, la foi n'est pas donnée pour faire avancer mon royaume, la foi est donnée pour faire avancer son royaume. Mais quand son royaume avance dans ma vie, tout ce que Dieu a pour moi est donné et offert. Beaucoup de chrétiens galèrent tous les jours, on prie, on je veux, Seigneur, donne-moi un salaire, on galère tous les jours, alors qu'on devrait être tellement connecté au royaume de Dieu, sachant que Dieu pourvoit mes besoins chaque jour. Je sers le Seigneur, je fais son plan et je suis ébahi de voir que Dieu est un Dieu fidèle qui tient parole. La foi vient de ce que j'entends. Est-ce que tu as entendu Dieu te parler pour ta nouvelle voiture? Oh là là. Pas encore, ben attends, achète pas. Les chrétiens me disent, oh moi j'ai acheté une voiture et je sais que c'est le plan de Dieu, enfin je crois. Vous savez, un jour je priais pour ma propre vie et pour l'argent, pour l'église, pour les dettes des frères et sœurs, pour les miennes, tout ça, pour ce qu'on avait créé comme dette dans ma propre vie, mes parents et tout ça. Je me disais, mais c'est pas possible, on a des dettes, c'est pas possible ça. Il me dit, les dettes sont générées à chaque fois que tu prends une décision en dehors de ma provision. Créer une dette, ça signifie que tu n'es pas d'accord avec la provision de Dieu pour aujourd'hui. Je te dis, voici 1000 euros par mois. Toi, tu dépenses 1200 parce que tu veux aider Dieu. Et les 200 euros de plus, c'est une dette. Je te dis, tu as 1000 euros, tu peux t'acheter ce canapé-là. Toi, tu veux celui-là parce que c'est en promotion, mais il coûte le double. Je te dis, je vais étaler. Tu es en train de sortir de ta zone de provision. Tu es en train de créer ce qu'on appelle de la présomption, pas de la foi. Tu as généré un manque alors que Dieu ne l'avait jamais pourvu avant. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Une fois que dans son royaume, tu marches dans ses standards, tu entends Dieu te parler, tu vois ce qu'il te dit, tu dis ce que tu vois, tu verras ce que tu dis, tu marches avec lui, tu entends sa voix, c'est solide, c'est fort, c'est costaud, il y a du poids dans la substance, tu sais ce que tu dis, tu sais où tu vas. Dieu m'a dit ça, j'ai fait telle chose, rien ne me bouge, et tout d'un coup, tous tes besoins sont comblés, tu es ébahi de voir que Dieu est fidèle. Mais comment ça fonctionne ça? Comment ça marche? La foi n'est pas une route de secours, la foi n'est pas un don que Dieu me donne parce qu'il a envie de me bénir par plein de choses. Dieu veut me bénir, c'est un bon papa et c'est un excellent père. Il aime donner à ses enfants, mais je crois que nous gaspillons trop souvent notre énergie à vouloir créer une foi qui ne vient pas de Dieu pour avoir des choses qui ne sont pas de Dieu. Et après on pleure parce que ce n'est pas de Dieu. Ce matin, Dieu veut vous libérer, il veut me libérer de plein de fardeaux inutiles. Il veut que tu cours dans la carrière qui t'est ouverte, comme dit Hébreu. Il veut que tu fonces pour lui, il veut que son royaume s'installe en France. Il veut que son royaume s'installe dans ta maison, dans ton foyer. Est-ce que le royaume de Dieu est installé dans ta maison? À moi. Amen ou pas? Et trop de chrétiens considèrent que la foi est une des options. La foi est la seule option possible pour celui ou celle qui marche avec Dieu. Et ce message est né dans mon cœur en octobre 2016. L'année dernière, j'étais au Canada. Et je priais pour le peuple de Dieu extravagant. Et Dieu me dit, Bruno, le problème que j'ai avec l'église en général, c'est que mon peuple ne marche pas par la foi. Et il m'a rappelé Hébreux 11.6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que ceux qui le cherchent croient que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les amis, dans le mot impossible, il y a le mot impossible. Tu peux donner ta dîme tous les mois, fidèlement. Tu peux venir à l'église tous les week-ends. Tu peux chanter des super cantiques. Tu peux être habillé en costard. Tu peux donner aux pauvres de l'argent. Tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne plais pas à Dieu. Je ne plais pas à Dieu. T'imagines vivre toute ta vie chrétienne sans plaire à Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que dès l'instant où je fais quelque chose, écoutez bien ça, hein, dès l'instant où je fais quelque chose pour laquelle je n'ai pas besoin de dépendre de Dieu, je déplais à Dieu. Vous voulez un casque? Ah, mais non, Bruno, ça paraît dur. Tu es dur. Je ne suis pas dur. Je n'ai que la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu fais des choses pour lesquelles tu ne dépends pas de Dieu. Tu fais des choses avec. Il y a des gens qui me disent, Bruno, moi, j'ai la foi. Je les regarde, ils sont dans une petite barque. La barque est dans un gros paquebot. Le paquebot est dans un conteneur. Le conteneur est sur la terre ferme. La terre ferme est dans une boîte. La boîte est dans... avec plein de tubes, plein de tuyaux, plein d'argent, plein de bouffe, plein de réserves pour l'éternité. Il dit, là, j'ai la foi. Non, la foi, c'est lorsque tu dépends uniquement de Dieu. Pas de Dieu et de ton patron. Pas de Dieu et de ton pasteur. Pas de Dieu et de pasteur Steve. Tu dépends que de Dieu. Alors, c'est un message qui paraît peut-être un peu dur, mais les amis, par amour, c'est quelque chose de tellement vrai en moi en ce moment. Je veux vivre une vie par la foi. Je n'ai pas dit je vais être pauvre ou ruiné, peu importe. Non, je vais vivre une vie selon les provisions de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu aime tout le monde? Qui dit oui? Est-ce que vous pensez que Dieu a sa faveur sur tout le monde? Ah. Il y a des gens sur lesquels la faveur de Dieu repose et d'autres sur lesquels la faveur de Dieu ne repose pas. Pourtant, Dieu aime tout le monde pareil. Il y a des gens qui activent la présence de Dieu, qui activent son atmosphère, qui activent la puissance, qui activent l'autorité, parce qu'elle est donnée par Dieu. Dieu dit, oh, ça c'est mon fils, je te fais confiance, voici de l'onction, voici de l'autorité, voici de la puissance, voici de l'argent, vas-y, parce que tu fais avancer mon royaume, tu me plais, tu plais à mon cœur, tu marches par la foi, mon fils, je suis avec toi. Et d'autres, on a plein de sécurité, on a plein de discussions, on a plein de oui mais, le fameux oui mais français. Non, Bruno, je comprends ce que tu dis, mais quoi? Mais Dieu est avec toi ce matin et il t'aime à la folie. La Bible dit que Dieu est, je vais juste ce matin finir avec ce point-là, j'espère. Dieu est, tout le monde dit Dieu est. Tout le monde dit Dieu est. Vous savez, lorsqu'on lit ce passage, on se dit, bon, bah, Dieu est, d'accord, c'est cool. C'est extrêmement important. Je vais vous donner une clé. Si vous la connaissez déjà, tant mieux. Si c'est pour vos nouveaux, tant mieux. Une clé qui va vous aider à comprendre comment fonctionne la foi. Parce que je veux qu'on quitte ce lieu ce matin en se disant, wow, maintenant je vais vraiment agir par la foi, je vais vraiment activer le royaume dans ma vie, je vais vraiment voir ce que Dieu m'a dit, je vais vraiment le vivre. Souvent on me dit, tu sais, j'écoute des messages. Ça fait combien de temps qu'on écoute des messages tous les dimanches? Des années. Et j'aime l'école biblique clé. Je ne suis pas fou, j'aime l'école biblique. Mais les disciples ont changé le monde sans école biblique. Je veux dire, et c'est important. Parce que l'école biblique est là pour faire des disciples. Mais mes amis, Steve disait un truc très très fort hier, on le dit souvent en extravagance. Beaucoup de gens se réfugient dans la prière pour ne pas agir par la foi. La prière cache notre irresponsabilité. Si on est responsable, écoutez mes amis, si vous lisez avec moi Ésaïe 61 et Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, on ne peut pas rester indifférent à la présence de Dieu. On ne peut pas rester indifférent à son onction, sa puissance. On ne peut pas voir les gens autour de nous qui souffrent, les SDF, les gens qui ont les vies brisées, les couples brisés, en disant « Oh mince, tu souffres !» Quand tu sais que toi, tu as l'Esprit Seigneur sur toi pour leur dire, mais je suis ta solution, je sais qui peut t'aider. Tu souffres, mais Dieu te guérit. Tu es perdu, mais Dieu te retrouve. Dieu est avec toi. Quand tu as le Saint-Esprit sur toi avec la foi, tu ne peux pas marcher dans une rue sans rester indifférent. Tu ne peux pas voir les informations le dimanche en restant indifférent. Notre pays, la France, a besoin d'une église qui marche par la foi, dont le Saint-Esprit est le seul maître à bord. Le vrai pasteur d'église, c'est pas Rodrigue, c'est pas Stéphane, c'est pas moi. Le vrai pasteur, c'est le Saint-Esprit. Et lui dit, c'est moi qui donne la foi. Mes amis, Dieu est. Alors j'aimerais vous montrer un schéma, si possible, sur l'écran. Un schéma, merci, qui va vous montrer comment ça fonctionne. Dieu est. Dieu, c'est quoi Dieu est? Dieu est éternel. En fait, Dieu a créé l'éternité. Hein. Parce que Dieu est plus grand que l'éternité. Alors si vous voyez, bon, le schéma est un peu petit pour ceux qui sont loin, mais il y a une ligne de temps, début, fin. Début, il y a Adam et Ève, il y a Abraham, il y a David, il y a la croix, sur la ligne du temps, la croix. Ensuite, il y a 1000 ans après Jésus-Christ, il y a Bruno Extravagance, il y a Rodrigue, il y a nous aujourd'hui. Ok ? Ça, c'est la ligne du temps que Dieu nous donne pour qu'on puisse réagir, vivre et interagir dans l'espace dans le monde physique. Écoutez bien, c'est important. Mais Dieu, lui, n'est pas du tout confiné à l'espace, au temps qui passe. Nous, nous avons un monde qui est défini par des longueurs, des largeurs, des profondeurs, des hauteurs, par des minutes, des secondes et le temps qui passe. Oui ou non? Mais Dieu, lui, la Bible dit que Dieu est. Dieu n'était pas, Dieu ne sera pas, Dieu est. Donc Dieu est en dehors du temps que nous vivons. Vous avez quand même l'impression que vous me suivez bien? Vous savez où je vais en venir? Donc Dieu est, c'est pas, il n'y a pas de chronologie en Dieu. Nous avons une chronologie, nous avons un temps qui passe. Nous pouvons dire hier, aujourd'hui et demain, mais Dieu lui dit, Dieu est. Alors j'ai tenté d'expliquer, si vous êtes aujourd'hui un physicien dans la place, pardonnez-moi d'avance. Je me souviens des vieilles leçons de ma jeunesse d'il y a 3 mois, quand j'étais au lycée. Les scientifiques ont prouvé que lorsqu'ils peuvent accélérer une particule subatomique, à la vitesse proche de celle de la lumière, le temps s'arrête. Ça veut dire en clair que lorsque quelqu'un atteint la vitesse de la lumière, ce qui n'arrivera jamais pour l'instant, mais si vous et moi nous pouvions, on dit ça ? Puissions, pouvions, eussent pu, atteindre, je fais le français purée, si nous, vous et moi, imaginez quelques secondes, toi et moi ce matin, on peut atteindre la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km par seconde. Ça va vite, plus qu'une Audi, hein. Si toi et moi, suis-moi, c'est bon, je vais en venir. Si toi et moi, nous arrivons à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Dieu est lumière. Le temps s'arrête. L'éternité, c'est le présent continuel. Vous me suivez pour l'instant ou pas? Donc si je marche avec Dieu, dans l'esprit, je suis en fait à la vitesse de la lumière, puisque Dieu est lumière. Dans l'esprit, il n'y a pas de temps. Dans l'esprit, il n'y a pas de présent, futur, passé. Dans l'esprit, tout est. Je peux toucher simultanément dans l'esprit le passé, le présent et le futur en même temps. On n'est pas sur de la science-fiction, là, c'est spirituel, c'est le monde de l'esprit. Dans l'esprit, il n'y a pas de distance. Il faut comprendre ce principe extrêmement important. Quand tu vas à la vitesse de la lumière, tu te rends compte, quand tu vis sur les conditions de la lumière de Dieu, donc dans la présence de Dieu, dans l'esprit, il n'y a pas de temps. Donne un exemple concret, j'ai fait un calcul rapide. Imaginons, j'écris rapidement, oui, si nous prenions une navette spatiale qui nous propulsait dans l'espace à la vitesse proche de la lumière, moi j'ai fait un calcul simple autour de 275 000 km par seconde, écoutez bien ça, hein. Et on part nous 20 ans, 20 ans dans l'espace. Si on voyage à la vitesse de la lumière et qu'on revient, pour nous, on n'aura vécu que 4 heures sur Terre. Ma famille a vécu 20 ans, moi je pars et je reviens, et moi je ressemble exactement à ce que j'étais, je n'ai vieilli que de 4 heures. C'est-à-dire que plus tu es, écoutez bien ça, plus tu marches dans l'esprit, plus ta vie est rythmée par ce que Dieu dit, plus le temps s'arrête et moins tu es soumis aux conditions, aux circonstances d'aujourd'hui. Écoutez ça, ça c'est fondamental pour la foi. Quand tu fréquentes un gars qui a la foi, si tu n'as pas la foi, il t'énerve. Il t'agace. Il paraît totalement fou. Il dit, mais de quoi tu parles là? Nous on est en train de galérer, toi tu me parles de la foi, il n'y a pas de nuage, il n'y a rien, tu me dis que la pluie va tomber. « Oh Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Jusqu'à quand vais-je rester avec vous ?» dit Jésus, homme de peu de foi. Jésus te dit, mais pour lui c'est normal parce que Jésus est. Quand vous commencez à comprendre ce principe, vous allez comprendre ce que Dieu dit quand il dit, « Avant la fondation du monde, je t'avais établi prophète des nations pour que tu sois le prophète des nations. » Vous allez voir où je vais en venir. Vous connaissez le passage dans Marc 11 qui dit, « Quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. » La foi doit se connecter au monde de l'esprit. C'est du présent continuel, c'est l'éternité qui se manifeste. Écoutez bien ça. Avoir la foi, c'est laisser l'éternité impacter le présent. Quand vous priez, croyez, présent, je suis présent, je crois, que je l'ai déjà reçu. Et je le recevrai. La plupart des gens, écoutez bien ça, prient en espérant le recevoir, en espérant le créer, mais la foi ne crée rien, la foi obtient ce que Dieu a déjà créé. et elle le rend visible dans le monde naturel. C'est pour cela que si Dieu ne t'a encore rien dit, si tu n'as pas vu ce que Dieu a déjà créé, tu n'as pas le droit de le prier. Si tu pries quelque chose que Dieu n'a pas créé, volontairement parlant, si tu veux activer ta foi, soi-disant, pour dire « je déclare ça, je veux ça », mais que Dieu n'a pas créé, tu tombes dans la présomption, dans la manipulation et dans la magie blanche. Et ça blesse des gens, et ça blesse des églises, ça blesse plein de gens qui disent « tu sais, on m'a dit que par la foi j'aurais ça, j'ai cru, j'ai prié, mais rien ne s'est passé. » Parce que peut-être, ou bien tu n'as pas la foi, ou bien tu n'as jamais entendu Dieu te parler. Plonge-toi dans ma réalité, dit Dieu. Plonge-toi dans mon royaume. Vis dans mon royaume. Mon royaume est éternel. Mon royaume n'a pas de fin, ni de temps. Mon royaume, c'est je suis dans la présence de Dieu. J'entends Dieu me parler. Ouh, j'ai la foi. Et j'emmène un moment d'éternité dans mon présent. Je rends visible ce que Dieu a déjà créé. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas dans le monde physique. Et quelque chose de vrai existe déjà. Quand tu marches par la foi, tu marches avec le présent continuel, tu marches avec l'éternité, tu comprends que Dieu a déjà créé. Comment ça fonctionne ça, mes amis? Ça vous parle, ça, ou pas trop? Qui s'ennuie? Qui apprend au moins une chose ce matin? Qui est trois personnes, c'est bien, ça m'encourage. 1 Pierre 1,20, rapidement. 1 Pierre 1,20, vous savez pourquoi c'est extrêmement important ce matin. 1 Pierre 1,20, je vous aime mes amis. Je veux vraiment vous provoquer dans l'amour en disant, les amis, allons retrouver une foi, excusez-moi l'expression, mais une foi de malade. Pas une foi malade. Une foi de ouf. Une foi qui, quand tu te lèves le matin, le diable fait, non, tout mais pas elle. Non, tout mais pas elle. Une parenthèse, vous savez, un truc qui me dérange franchement, qui me dérange au plus profond de mes tripes. Quand je vois des chrétiens qui me disent, pasteur, je suis la cible du diable. Je regarde le gars, je fais, mais quoi? Non, attends. Reviens à la parole de Dieu. Le diable est ta cible. Ah bon? Comment, acte 10, 38, comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu et qui guérissait tous ceux qui étaient malades et qui brisait tous ceux, qui brisait toute la puissance de l'ennemi, car Dieu était avec lui. 1 Jean 3 nous dit, versets 8 et 9, nous dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus avait une passion de destruction contre l'ennemi. Quand Jésus est venu sur terre, l'ennemi est devenu la cible. Depuis que Jésus est ressuscité, l'ennemi est devenu la cible. L'ennemi se cache, pas l'église. L'ennemi a peur de toi, pas l'église. L'ennemi a peur de la foi que tu peux dégager chaque matin. Quand un homme ou une femme de foi prend la parole et déclare dans le monde de l'esprit, l'ennemi dit « purée, mince ». Il y a plein de bip, 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 parce que lui, son vocabulaire n'est pas pur. Bon, c'est pas grave. 1 Pierre 1,20 nous dit, écoutez ça, comme, encore une fois, on voit le concept. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui donne la gloire. Mes amis, Pierre vient de dire un truc de puissant, il dit, avant que le monde soit, tu crois qu'il est ressuscité aujourd'hui, tu l'as vu paraître, l'éternité a impacté le monde réel. Écoutez bien, au moment où la croix a été plantée, où Jésus est ressuscité, écoutez ça, c'est pour cela que le sang de Jésus ne perd jamais sa puissance, parce que le sang de Jésus n'est pas passé. Le sang de Jésus n'est pas futur, le sang de Jésus est éternellement actuel, toujours dans le présent de Dieu. Si vous lisez psaume 22, le roi David écrit ses psaumes et il écrit le psaume 21, 22, 23 qui est une trilogie. Le psaume 22 est puissant parce que le psaume 22 nous parle de Jésus sur la croix. Et Dieu, écoutez bien ça, dans sa préscience et immense sagesse, écoutez bien comment c'est puissant, vous allez voir où j'en venir, donne à David une vision du futur, c'est plusieurs centaines d'années avant la croix. Et David décrit Jésus sur la croix. Il voit les meurtrissures, il voit la souffrance, il entend même ce que Jésus dit alors que Jésus n'est pas encore né. Parce que David a tapé dans le monde de l'esprit qui est éternellement présent. Et la croix est devant lui et il voit Jésus, il n'y a pas de futur, pas de passé, pas de présent, il est dans l'éternel présent. Dans la lumière, le temps s'arrête, il voit tout ce qui se passe comme si ça arrivait aujourd'hui dans sa vie. Et si vous lisez la suite des événements dans Rois et Chroniques, vous allez vous rendre compte d'une chose extrêmement puissante. Après le psaume 22, David a choisi de ne plus suivre le protocole de Moïse dans le tabernacle. Il a changé le tabernacle. Avant le psaume 22, pour entrer dans le tabernacle, il y avait des protocoles. Il fallait être lévite, absolument lévite. Il fallait rentrer avec un protocole très sérieux sous peine de mourir. Il y avait des limites et des murs à l'intérieur du tabernacle. Mais après David, ou avec David, il a enlevé tous les murs. Il a enlevé, lisez votre Bible, il a enlevé tout ce qui est dans le tabernacle et il est rentré comme un prêtre roi. Et ceux qui le suivaient avec lui ce jour-là sont rentrés comme s'ils étaient déjà après la croix et la résurrection. Quand un homme ou une femme tape, récupère quelque chose dans l'esprit, il change son présent. J'aime dire à mon église, je suis un historien du futur. J'aime me rappeler mes souvenirs du futur. Comment ça comprend comment la foi agit? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on... L'espérance est liée à ton futur, à ce que tu vois. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas activer ton futur. David a activé son futur. Parce que Dieu lui a montré une vision de la croix, il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on se fatigue à vivre encore sous l'ancienne alliance quand on a déjà vu le futur de la nouvelle alliance? Rien n'avait encore été fait. C'est pour cela que l'homme ou la femme qui marche par la foi agace profondément ceux et celles qui ne voient rien dans l'esprit. Parce qu'ils vivent déjà selon un code de l'honneur que Dieu a déjà agréé alors que rien n'est encore été fait sur terre. Mais toi, tu as vu. Or, la foi, je comprends que ce passage est connecté au salut. Romains 10, 17. Mais dans la parole de Dieu, à chaque fois que Dieu a parlé à un homme et que la foi est née dans son cœur, le présent a changé. Moïse entend Dieu. Une nation est sauvée. David entend Dieu. Il change le tabernacle. Vous savez, quand un autre passage puissant, vous savez que Élie a été enlevé dans le ciel. Et que Élie n'a pas vu la mort. Qui est l'autre qui n'a jamais vu la mort? Et ensuite, Moïse. Moïse, personne ne sait où son corps est. D'accord? Mais quand Moïse a dit à Dieu, Seigneur, montre-moi ta face. Tu lui dis, non, je montrerai de mon dos ma bonté. En fait, dans l'hébreu, c'est magnifique, hein, je n'ai pas le temps de tout dire, mais dans l'hébreu, il dit, je vais te montrer le futur. Un Dieu bon va toujours te montrer ton futur en lui. Écoute ça. Pierre, Jacques et Jean sont choisis par Jésus pour aller faire un tour sur une montagne un beau matin. J'imagine déjà moi le reste de l'équipe. J'imagine les autres disciples. Vous allez où? On va avec Jésus. Et pourquoi pas nous? Je sais pas. Le genre d'église très mature où personne n'est jaloux de l'un de l'autre. Pourquoi toi t'es tout le temps chez le pasteur? Je sais pas. Je suis plus loin que toi. Et Pierre, Jacques et Jean débarquent avec Jésus. Là, vous connaissez l'histoire. Jésus est sur la montagne, il y a la transfiguration. Et il y a qui sur la montagne? Il y a Élie et Moïse. Et les deux qui ont eu des visions de Jésus-Christ malade, mais largement avant que Jésus soit né sur la terre, largement avant, ils ont tapé dans l'éternité, ils ont vu le présent, ils sont dans un monde de transfiguration. Écoutez ça, comment c'est puissant. Ils voient Jésus transfiguré. En partie d'histoire, j'aime Pierre. Pierre dit, ouh, Jésus, trop cool, je vais faire un truc ici, un mémorial. Puis il commence à faire n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Et là, le père lui dit, hé, c'est mon fils, écoute ce qu'il a à dire. Oups. Hé, te faire reprendre par Dieu le Père, là, maintenant même, en plein moment où Jésus-Christ est transfiguré, t'as de quoi flipper, hein. Écoutez ça, il y a un moment de gloire, là. Il y a un moment où l'éternité a pénétré le présent. Il y a un moment où tout se passe. Quand ces hommes-là ont vu ça, Pierre, Jacques et Jean, quand ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie, Jésus transfiguré, ils ont tout d'un coup, pendant un laps de temps, je ne sais pas combien de temps, le temps s'est littéralement arrêté. Et Jésus-Christ, moi je crois sincèrement ça, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais c'est puissant. Jésus a vécu avant la croix son état qu'il aurait après la croix. Sur cette montagne-là, il y a eu un corps glorifié, transfiguré. Écoutez encore une fois, comment ça se passe, comment ça fonctionne la foi. Le Père lui a montré son futur. l'éternité a pénétré le présent. Jésus savait à quoi il ressemblerait après la croix. Quand tu sais ce que tu vas accomplir, ou quand tu sais à quoi tu vas ressembler après un moment difficile, tu traverses n'importe quel moment difficile. La foi a besoin de l'espérance pour vivre aujourd'hui. Celui qui a vu demain peut vaincre aujourd'hui. C'est pour cela que moi, je n'ai pas besoin de dire aux chrétiens, s'il vous plaît, priez. Oh, si tu pries, franchement, si tu pries, tu te feras du bien. Attends, oublie ça. Tu veux voir ton futur? Ouais, prie. Tu veux avoir la foi? Ouais, prie. Tu veux savoir ce que Dieu pense de toi? Ouais, prie. Passe du temps avec lui. Or, la foi vient de ce que j'entends. La foi d'un homme est connectée à son intimité. Quand je passe du temps avec Dieu, ma foi devient solide, elle devient vraie. Ma foi s'est amenée, s'est littéralement amenée l'éternité dans mon présent. Et moi, j'étais surpris de lire ça plusieurs fois. Quand j'ai vu que David avait cette capacité à changer le tabernacle, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, il a changé le tabernacle avant même la croix, des centaines d'années avant la croix. Je ne sais pas si tu captes aujourd'hui, c'est comme si tout d'un coup je vois le futur et je change littéralement toute la façon de faire l'église, le président, la présidence, tout, je change tout comme ça. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec vous ce matin. Au lieu de suivre les cours, école biblique, clé, au lieu de venir à l'église le dimanche matin et d'attendre que ces messages-là changent ta vie, sache que tu peux aller directement dans le trône du Père, recevoir de la part de Dieu, et les cours de l'école clé et les célébrations du dimanche ne sont pas des cours pour te convaincre, ce sont des cours pour t'aider à comprendre ce que tu as déjà vu. Là, tout d'un coup, tout est différent. Tu te lèves le matin, tu ne dis pas « j'espère que je vais comprendre », tu sais que quelque chose s'est passé. Or, la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Christ, du message de Dieu. Seigneur, parle-moi à nouveau ce matin. Alors j'aimerais conclure si possible avec, et ça brûle dans mon cœur, j'ai besoin de le faire ici en France, à Montpellier. Je ne sais pas ce que vous pensez ici, mais j'ai été extrêmement surpris plusieurs fois lors de mes discussions en France, surtout en France, ici en métropole, avec plein de chrétiens qui ont osé me dire en face qu'il n'y a aucune différence entre Logos et Réma. Ah si, ils m'ont dit. Je veux juste ce matin, juste vous faire un petit rapport rapide. Vous êtes prêts? Un petit rapport, parce que c'est crucial. Quand dans Romains 10, la parole 10-17, la parole de Dieu nous dit « Or la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. » Le mot « parole » ici, c'est quoi? C'est « réma ». C'est pas « logos ». Si Dieu, dans son omniscience et sa clarté magnifiquement puissante de son intelligence, est capable de dire qu'il faut deux mots en grec pour les mêmes expressions, c'est qu'il sait ce qu'il dit. Donc, qu'est-ce que le Logos? Vous savez tous c'est quoi le Logos? Le Logos, c'est la parole écrite de Dieu, la Bible, que personne ne peut changer, que personne ne peut altérer. C'est le socle de notre vie, c'est notre fondement. Sans cette Bible-là, je meurs. Sans cette parole de Dieu, je meurs. Je dois me nourrir. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de son Dieu. Oui ou non? Donc, la Bible, le Logos, fait principalement référence à l'intégralité de la parole de Dieu. Rapidement, quelques versets. Jean, chapitre 1, verset 1, où il est dit « Au commencement était la parole, Logos. Et la parole était avec Dieu, Logos. Et la parole était Dieu, Logos. » Luc 8, 11, « La semence est la parole de Dieu, Logos. Tu dois semer le Logos. Tu dois recevoir le Logos. » Philippiens 2,16 nous dit « Portant la parole de vie, parole Logos, étudie pour te montrer approuvé par Dieu un ouvrier qui n'a pas à être honteux et qui dispense droitement la parole de vérité, Logos. Car la parole de Dieu est rapide et puissante. » Hébreux 4,12, Logos, vous me suivez? Donc, quand on parle de la parole écrite, on parle du Logos. Tout le monde dit Logos. Vous allez voir, c'est très important de comprendre ce que je vais dire ce matin, parce que si vous captez ça dans votre esprit, votre foi peut radicalement changer. Et c'est le cœur du Père ce matin, le cœur du Père, c'est de dire hey, je veux que mon église augmente leur niveau de foi comme jamais. Plus de proclamations vides, plus de yank yank yank, Seigneur, on espère. Quand tu te lèves le matin et que tu proclames, tu sais ce que tu dis. Mais la réma, le réma, c'est quoi? Le réma, c'est la parole exprimée du Logos. Vous allez voir, je vais en venir. Un réma, c'est une déclaration en grec. Le Logos peut être lu. Il peut être entendu, tu peux le recevoir, tu dois le recevoir. Écoutez bien une remarque. Il n'y a pas de réma sans logos. Pour augmenter la capacité et la fréquence de tes réma, il faut absolument augmenter la capacité de recevoir le logos. Plus tu es rempli du logos, plus il y a de chances que tu reçoives des réma. Tu reçois un logos en toi et tu reçois un réma par révélation. Mais les deux sont extrêmement connectés. Si un gars te dit « j'ai plein de réma, mais il ne lit jamais la Bible », alors tu es en danger, le gars est fou, faux, à côté de la plaque, et est dangereux. Chaque parole de Dieu est inspirée, on le sait. Chaque parole de Paul dit à Timothée, chaque parole de Dieu est inspirée, elle est profitable pour la doctrine, la réprimande, la correction. On comprend cela. Écoutez bien, mes amis, écoutez bien ce qui se passe ici. Quand le Saint-Esprit illumine un verset particulièrement à ton esprit, c'est un réma. Avez-vous déjà vécu un tel moment ? Tu prends la parole, tu lis un passage que tu as lu des dizaines de fois. Mais un jour, ça saute, ça fait, tu fais wow, et la foi vient. Je connais des gens qui ont lu toute la Bible 25 fois et qui n'ont jamais eu la foi. Le logos ne fait pas naître ta foi de façon active. Le logos te prépare pour que le réma vienne et que la foi naisse. Il y a des gens, des religieux, des pharisiens qui connaissent par cœur le logos. Ils n'ont pas de foi parce qu'il faut que le logos soit inspiré par Dieu à un moment spécifique afin qu'il devienne une déclaration dans ta vie, un réma. Écoutez bien ça, écoutez bien ça. Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est le mot quoi ? Réma. Jésus a déclaré, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Réma. À chaque fois que vous trouverez un mot parole dans le grec connecté à la vie, à l'esprit, à l'action, c'est le mot réma. À chaque fois que vous trouvez un verset qui parle de la doctrine, de ce que tu es en Dieu, de la parole de Dieu, des principes fondamentaux, c'est le logos. Le réma active quelque chose. La Bible dit ici, 2 Corinthiens 13, de la bouche de deux ou trois témoins, chaque parole sera établie, c'est le mot réma. Déclaration. Écoutez bien ça, mes amis. Voilà la différence rapidement ce matin, comment c'est puissant dans l'esprit. Le logos est éternel. Jésus est le logos. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean 1,14 nous dit, et la parole est venue parmi nous, elle fut faite chair. Jésus est la parole. Vous suivez ? Jésus est le logos. Oui ou non ? Vous avez besoin de Jésus pour vivre votre vie. Sans Jésus, vous êtes tous morts, on est morts. Mais, quand Pierre est dans la barque et qu'il voit Jésus marcher sur l'eau, Pierre répond en disant, maître, pardon, quand Pierre a pêché, pardon, toute la nuit, il n'a rien récupéré, Pierre lui dit, maître, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris, cependant, à ta parole, on va à nouveau jeter le filet. Le mot parole, c'est le mot réma. Pas logos, réma. Quand l'ange vient voir Marie, et que Marie répond en disant, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, c'est le mot réma. Réma. Quand la Bible dit dans Luc 3:2, la parole de Dieu est venue à Jean, la parole de Dieu est venue à Jean, réma. Dieu parle à Pierre et dit, puis je me souvins de la parole du Seigneur. Pierre dit, je me souvins de la parole du Seigneur, réma. Et quand Jésus dit à Pierre qu'il le renierait, il dit, Pierre se souvint de la parole de Jésus qui lui a dit, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois fois, réma. Qu'est-ce qu'un réma ? Un réma, j'écris ici pour vous. Un réma est une parole inspirée de Dieu pour vous faire passer à l'action. Un logos te prépare pour l'action, mais le réma te fait passer à l'action. Donc, dans le domaine de ce matin de la foi, il y a trois éléments. Le premier élément, c'est que la foi vient directement du cœur de Dieu. Il faut entendre ce que Dieu dit. Le deuxième élément important, la foi se vit au présent. Si tu n'es pas capable de vivre une vie dans l'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le monde de l'éternité. Si tu n'es pas capable, ou je ne suis pas capable, on n'est pas capable de rentrer dans le monde de l'esprit, la foi n'aura aucune puissance parce qu'elle doit vivre dans le présent. Et la foi doit absolument se nourrir du logos qui la prépare. Elle prend le logos, elle le reçoit, ça change l'atmosphère dans ton cœur, ça change ton cœur, ça change ta vie si tu l'appliques. Et quand tu as des logos comme ça partout dans ton cœur, Dieu dit, ok, je vais illuminer cette parole. Bam ! Et tout d'un coup, tu te dis, je passe à l'action. Par exemple, tu lis un passage toute ta vie qui dit, Marc 16, 15, il te dit, je fais de toi un évangéliste, va dans le monde entier et gagne des disciples. Tu dis, ouais, bon, tout le monde connaît le passage. Un jour, tu le lis et tu te rends compte que ce passage est pour toi. Et tu quittes ta chambre en disant, Dieu veut que j'aille gagner des âmes partout. Tout le monde a lu ce passage, tout le monde le lit tous les jours. Mais toi, quand tu le lis, tu entends Dieu te dire, tu es un évangéliste. Dans mon cas, moi, j'ai lu Jérémie, chapitre 1. Avant la fondation du monde, je t'avais établi prophète des nations afin que tu arraches, détruises, casses, que tu reconstruises et que tu bâtisses. Donc dans mon ministère, souvent du dish. Après, ça va, tu vas bien, je peux mettre une pierre ici. Mais sans ce passage-là, fondamental dans ma vie, sans ce réma, je n'aurais pas la foi de faire ce que je fais aujourd'hui. Quand tout le monde est contre moi, quand les gens ne me comprennent pas, quand je fais quelque chose qui paraît dur parce que je rentre, quelqu'un m'a dit hier, tu percutes, tu tapes comme ça, toi tu n'as pas 3000 chemins, tu vas tout droit directement, tu n'as pas de bonjour, au revoir, je dis bah, désolé, je fais ce que je peux. Ça c'est mon appel. Et si vous comprenez la parole de Dieu, vous allez vous dire, ok, c'est chacun son appel, il y a le pasteur, l'enseignant, le berger, oh bonjour mon petit peuple bien-aimé, oh bonjour, le prophète dit, bon on y va. C'est caricatural, mais c'est comme ça. Mes amis, j'espère ce matin vous avoir fait réfléchir sur votre foi. Parce que votre foi est fondamentale, ma foi est fondamentale. Si je n'ai pas la foi, je ne plais pas à Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais moi je refuse de vivre une vie religieuse. Je refuse de vivre une vie poussiéreuse. Je refuse de venir... Tu imagines qu'à La Réunion, je viendrai à l'église tous les dimanches pour vivre n'importe quoi alors que je peux faire du surf ou faire du vélo. Il faut vraiment que Dieu m'ait secoué et que j'ai compris les choses dans son cœur pour me dire, honnêtement, je préfère à l'aise passer 2 heures avec le peuple de Dieu que de faire du surf. Et pour les surfeurs, vous savez de quoi je parle. Mes amis, si on vient ici et que nos enfants jouent à Crash Bandicoot pendant les cultes, et que le copain parle à sa copine pendant la célébration, le problème n'est pas qu'elle parle à sa copine pendant la célébration le dimanche matin. Le problème, c'est qu'elle fait ça toute la semaine, tous les jours, et qu'elle n'a jamais compris que la présence de Dieu est beaucoup plus beau qu'un téléphone portable. De quoi est-ce que je parle ce matin ? La vie chrétienne ne se vit pas ici, mais chez nous. Voulons que nos enfants aient la foi ? Chez nous. Voulons que nos enfants aiment la parole de Dieu ? Combien de parents sans lever la main, combien de parents ce matin passent du temps à lire la parole de Dieu avec leurs enfants de façon non religieuse? À leur donner envie de dire Dieu est tout puissant, il est largement plus puissant que je sais pas quel gars sur la terre qui danse bien, pourquoi et tout ça, yo yo. Cool, mais attendez, Jésus sauve la vie, les autres non. Donc voici ma question simple ce matin. Comment est ta foi? Comment est ta foi ce matin? Est-ce que tu es capable de me dire, je me lève le matin et je sais que Dieu m'a parlé? Parce que Romains 8, 1 nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Le rôle du cœur du Père ce matin, mon rôle, ce n'est pas de vous condamner, c'est de vous dire, de vous convaincre. Il existe autre chose. Il y a un autre niveau de vie chrétienne qui est en fait le vrai niveau de la vie chrétienne. Il y a un niveau où tu marches dans un hôpital et tu es pris de compassion. Et tu te dis, wow, Seigneur, je peux aller prier pour la personne? Et souvent on me dit, pasteur, c'est quoi mon appel? Marc 16. Ah bon? Va lire Marc 16, Matthieu 28. Faites des disciples, prie pour les malades, chasse les démons, guéris les gens. Ah bon? Ouais. Voici les signes qui accompagneront les prophètes. Les pasteurs. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a 2 types de chrétiens sur terre. Il y a le chrétien qui est à la poursuite des signes. Il y a le chrétien que les signes poursuivent. Ceux qui cherchent les hommes de Dieu, alléluia, lui il a des chrétiens. C'est un homme de Dieu, c'est super, il a des signes, des produits, c'est génial, gloire à Dieu, on l'honore, c'est super, mais toi c'est pareil, Joseph. Le même Saint-Esprit. Je dis toujours à mes enfants, à ma fille, je dis, ma chérie, il n'y a pas de Saint-Esprit bébé. Mais nos enfants prophétisent. Régulièrement, ma fille Lisa ou ma fille Anna m'envoient des prophéties, mais des trucs de fou. Hein. Je suis en voyage, bam, Dieu a dit, papa, Dieu te dit, Dieu a pas, Dieu a fait telle chose. Ah bon? Parce qu'elles sont connectées au Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais vous encourager, vous dire, les amis, j'ai besoin, ce matin, de savoir si vous avez été au moins un tout petit peu ébranlé un tout petit peu en disant, ok, j'ai besoin d'avoir cette foi. Ou qui me dit, non, je me suis ennuyé grave. Je ne serai pas vexé. Je vais plus revenir, mais je ne serai pas vexé. C'est un sujet qui paraît simple, mais mes amis, c'est fondamental ce matin. Fondamental. Vivre par la foi ne signifie pas galérer. Vivre par la foi signifie que j'ai entendu Dieu me parler et je sais exactement où aller, quoi faire, quand le faire, pourquoi je le fais. Et tout d'un coup, tout est donné par-dessus tout. Je sais, je sais dans mon cœur, je vois, je le sens, beaucoup d'entre vous, vous êtes étirés, fatigués, en disant, mais je ne comprends pas, on donne des mois, des années, on donne ce que l'on a, on vient fidèlement, on est constant, et je comprends tout ça, et mon cœur de pasteur, là, réagit en disant, wow, merci. Mais ce que Dieu veut faire, il veut vous amener à la dimension où c'est lui qui prend le contrôle et dit, laisse-moi faire à ma façon. Essaye sa façon, tu vas voir. Tous les jours avec Steph, tous les jours, on a des gens qui nous écrivent des emails, des miracles. Il y a aussi des deuils, il y a aussi des divorces. Ça nous arrive, c'est rare, mais ça nous arrive, c'est dur pour nous. Mais il y a tellement de miracles, tout le temps. Pas des hommes de Dieu de l'Église, des chrétiens. Je me rappelle d'un jour où les pasteurs se sont assis au premier rang et des chrétiens d'Église ont fait des rapports sur ce que Dieu faisait dans leur vie. Un des pasteurs nous regarde et dit « Mais moi, je fais que prêcher. » Le gars s'est senti mal parce que les chrétiens à qui il prêche tous les week-ends font plus de choses pour Dieu que lui. Ils ont plus de miracles, plus d'impact, plus d'âmes sauvées. Le gars fait « Moi, je fais quoi, moi ?» J'ai dit « Écoute, réveille-toi, t'es mort. » Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit « C'est pas grave, on s'est dit bien, t'as semé. » Ah ouais, j'ai semé. Je me demande ce matin, j'ai presque fini, je me demande à quel niveau est votre soif pour vivre, non pas une foi cool, une foi géniale, mais la foi que Dieu veut pour toi. La foi est un don que Dieu fait à celui ou celle qui est à la recherche de l'impossible. Si tu cherches que des situations possibles, oublie la foi. Parce que la foi n'est que pour l'impossible. Donc ma question c'est, qui veut la foi? Qui veut la foi? Donc qui veut tout ce qui est impossible? Oui, mais tu vois, c'est un gaffé, lui. Saint-Esprit ce matin, alors que nos mains sont levées quelques secondes. Seigneur, j'ai simplement fait ce que tu veux que je fasse. J'ai été obéissant. Et je veux simplement te demander de prendre ce message, de prendre ces principes fondamentaux au Saint-Esprit, de nous les mettre dans notre cœur, dans notre âme, notre esprit, au plus profond de notre être. Et que chaque chrétien, précieux frère, précieuse sœur, dans ce lieu ce matin, puisse commencer à vivre, à mettre en pratique, à pratiquer ta parole, la prendre au sérieux, Seigneur Jésus. Pour une raison que j'ignore, le Saint-Esprit me demande de ne pas prophétiser ce matin. Il me demande de vous dire qu'il veut avoir un face-à-face avec vous. Il ne veut pas du tout. Il y a des fois, il se sert des hommes, souvent, il se sert des hommes de Dieu, il se sert des chrétiens. Mais ce matin, il m'a dit clairement, il m'a dit avec beaucoup d'amour, il m'a dit, Bruno, je ne veux pas d'intermédiaire. Je veux uniquement que ceux et celles qui ont soif puissent venir dans ma présence ce matin. Alors si mon frère me permet, je vais prendre sa guitare acoustique si c'est possible, tu vois. Et je vais simplement vous demander en quelques minutes, pour ceux qui veulent, pour ceux qui le souhaitent vraiment, si ce message te parle, si tu me dis, Bruno, tu sais quoi, ma foi a réellement besoin d'être rafraîchie ou d'être restaurée ou d'être renouvelée, ou tout d'un coup tu dis, non, je veux avoir la vraie foi, je me rends compte que je n'ai jamais vraiment eu la foi. Alors je te propose ce matin, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui veulent vraiment avoir ce face-à-face avec Dieu, de vous lever et de venir vous mettre à genoux devant l'estrade. De façon juste simple, de vous dire, Seigneur, ok, là c'est toi et moi. J'oublie Bruno, j'oublie Steph, j'oublie l'église, j'oublie Clé, j'oublie Rodrigue, je veux juste toi et moi. Je veux que tu fasses à nouveau naître cette foi en moi.